en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie, cette émission Histoire des fauteuils de l'Académie française que nous devons à Mireille Pastoureau, directeur conservateur de la bibliothèque de l'Institut, s'inscrit dans une série. Cette émission est la 9e de la série. Vous voyez que nous n'avons pas encore fait les 40 fauteuils de l'Académie française. Et cette fois-ci, nous parlons du 13e fauteuil, actuellement occupé par Madame Simone Veil. Quels furent ses prédécesseurs à l'Académie française ? Parole à Mireille Pastoureau, qui sait tout. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour.
Alors, quels furent les prédécesseurs ? Je rappelle que Simone Veil a été reçue sous la coupole le 18 mars 2010. Donc, sur ce 13e fauteuil, elle succédait à Pierre Messmer. Voilà, ça c'est la période très récente.
Exactement, elle a eu 20 prédécesseurs, 20 prédécesseurs. À ce fauteuil. Bon. Oui, voilà.
Alors, ça commence évidemment donc au XVIIe siècle, au moment où l'Académie a été créée.
Exactement. Et nous avons Claude Gaspard Bachet de Mézières, qui est un des premiers entrés à l'Académie dès 1634, avant même la fondation officielle en 1635. Et il a la particularité d'être non seulement poète et grammairien, mais aussi mathématicien. Et c'est surtout à ce titre que l'on cultive son souvenir maintenant. Les mathématiciens actuellement, les historiens des sciences, s'intéressent beaucoup à lui, car il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Bachet-Bézout.
Et on ne vous demandera pas de dire ce qu'il dit.
Je vous remercie. Et ce qui est très amusant, c'est que Bachet ne trouvait rien de plus intéressant que les mathématiques. Il trouvait ça même beaucoup plus intéressant que la langue française.
Alors, oui. Vous avez dit qu'il travaillait sur des équations, évidemment, sur des fractions, sur la théorie des nombres, et qu'il avait trouvé une méthode pour la construction des carrés magiques. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'en souvient.
Voilà. Et il était originaire de Bourg-en-Bresse, où il a passé la fin de sa vie, parce que comme il était malade, il était atteint de rhumatisme et de goutte, il est très peu venu à l'Académie, et il a surtout résidé à Bourg-en-Bresse.
Alors, qui lui succède, le deuxième titulaire ?
Oui, le deuxième est François de la Motte Levaillé, qui a été élu à l'Académie en 1639. Et il était critique littéraire, grammairien et philosophe. Alors, comme souvent dans les messieurs de cette époque, il y a eu deux époques dans sa vie, deux périodes. Une période pendant laquelle il était un petit peu dilettante, libertin, et une autre où il est devenu croyant, religieux, philosophe, savant, voilà.
Alors, il avait une charge intéressante puisqu'il était le précepteur du dauphin, le futur Louis XIV, tout de
exactement.
Même, n'importe qui.
Voilà, tout à fait. En tant que précepteur, il a écrit des livres de géographie, rhétorique, morale, à l'intention du dauphin, qui ont fait date.
Il était évidemment protégé par Richelieu.
Voilà,
suppose,
tout
hein,
à fait.
Et bien en cours auprès d'Anne d'Autriche.
Voilà, exactement.
Il occupait
voilà.
ce poste.
Dans les premières années de l'Académie, évidemment, Richelieu tient l'Académie un petit peu dans sa main et il faut être bien vu du cardinal ministre pour
c'est
être
normal,
élu à l'Académie.
Puisque c'est lui qui l'a voilà. créé, oui. ça me paraît oui, tout à oui, fait oui. normal. Alors, le oui. troisième titulaire de ce fauteuil, alors lui, c'est un homme extrêmement célèbre.
Tout à fait, c'est étonnant, c'est Jean Racine. Et lors de la réception de Madame Veil, Monsieur Jean d'Ormesson avait des trémolos dans la voix en lui disant qu'elle succédait à Racine.
Voilà.
Madame, rendez-vous compte, Racine.
On avait oublié les deux premiers, mais lui, évidemment, on ne l'oublie
voilà.
pas.
Oui. Mais alors, ce qui est très amusant pour Racine, c'est que son discours de réception n'a pas du tout été spectaculaire. Parce qu'il parlait après un grand prédicateur qui s'appelait Esprit Fléchier, qui avait obtenu de grands applaudissements, que Racine lui-même a dû être un petit peu intimidé, déconcerté, et il a balbutié en prononçant son discours. Il paraît qu'on l'entendit à peine, et il a été applaudi modérément, et de sorte qu'il n'a jamais voulu faire imprimer son discours de réception.
Donc on n'a pas le texte
on
imprimé,
pas le
même
texte.
À la bibliothèque de la
cité. Oui, exactement.
Quel malheur. En tout cas, Jean Racine, en 1683, alors en tant qu'historiographe du roi, alors là, il entre dans une autre future académie, si on peut dire, dire.
Oui, oui, et ça c'est très intéressant dans l'histoire des académies. On a créé au sein de l'Académie française une autre académie qui au début s'appelait la Petite Académie, qui ne comportait que 4 membres et qui avait pour rôle de rédiger les inscriptions pour les monuments élevés à la gloire de Louis XIV et rédiger également les devises en latin qu'il fallait composer de façon très spirituelle pour les médailles qui commémoraient les événements du règne. Et cette académie, donc, qui était chargée d'inscriptions, s'est ensuite développée et est devenue l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui existe toujours. Et Jean Racine fit donc partie de cette première académie en tant qu'historiographe.
Et alors, c'est comme Racine est mort à 59 ans, il a été remplacé dans cette petite académie en tant qu'historiographe du roi par son ami Valincourt, qui lui aussi a été élu à l'Académie française.
Exactement.
C'est le quatrième.
C'est le quatrième. Et alors, il y était arrivé une aventure à Valincourt. Il avait la responsabilité de garder un manuscrit de Racine, qui était une histoire de Louis XIV. Et la maison de Valincourt a brûlé dans un incendie. Et le manuscrit de Racine était naturellement parmi les livres de Valincourt. Et le manuscrit n'a pas pu être retrouvé. Et pourtant, Valincourt avait donné, on dit 20 louis à un Savoyard. À l'époque, les Savoyards, c'était les travailleurs immigrés un petit peu, c'était les traits de misère, pour qu'il aille chercher dans l'incendie au travers des flammes le manuscrit. Et l'homme malheureux est revenu, il avait pris un recueil de gazettes, il s'était trompé de volume au lieu de rapporter le manuscrit de Racine.
À tout cela, nous entendons que Mireille Pastoureau, dans les trésors de la bibliothèque, trouve des anecdotes véritablement amusantes à se remémorer. Le cinquième occupant, Leriger de la Faille, on dit Leriger de la Faille.
Je ne saurais dire, oui, c'est un diplomate et un poète qui a été chargé de mission pour le roi, important, notamment la mission d'aller chercher une épouse pour le jeune Louis XV.
Oui, il a peut-être eu du mal à la trouver, l'histoire voilà. Ne le dit pas.
Voilà, c'était un grand collectionneur, il avait une grande fortune et il a constitué une belle collection de livres et d'objets d'art. Il a protégé des artistes et des gens de lettres, c'était une sorte de mécène. Et c'est cette activité qui lui valut d'être élu à l'Académie en 1730.
Alors, celui qui lui succède, là, son nom est un peu plus connu, c'est Crébillon.
Tout à fait. Crébillon, le père, car nous avons aussi Crébillon, le fils. Mais le fils n'est pas entré à l'Académie française, car il était spécialisé dans les contes et romans licencieux, et qui furent longtemps décriés pour leur immoralité.
Bon, tandis que le père n'était pas
licencieux. Non, c'est intéressant aussi de voir sa vie parce qu'il était devenu avocat, suivant le vœu de son père. Et en fait, il avait une vocation d'auteur dramatique. Et à un certain moment, il a laissé tomber la charge d'avocat et il est devenu auteur de théâtre avec, pas toujours de grand succès, mais les années venant, il a connu une grande gloire. Était favorisé par Madame de Pompadour, notamment à la fin. Donc ça c'est très favorable.
C'est bien. Oui. Et en effet, on lui doit Idoménée, tout de même un titre qui est resté dans les mémoires.
Oui.
Et puis Crébillon, malheureusement, il n'est pas le seul d'ailleurs à avoir quitté une profession pour devenir auteur dramatique et du coup être à l'Académie française. J'ai remarqué sur cette histoire des fauteuils, de ce 13e fauteuil, il y en a plusieurs.
Tout à fait.
On va les voir.
Ce qui montre que l'Académie aime récompenser les parcours non linéaires parfois. Les vraies personnalités un peu atypiques plaisent à l'Académie.
Voilà. Et puis en plus, il était l'adversaire de Voltaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, l'Académie n'avait pas envie de Voltaire.
Voilà.
Donc
oui.
On a choisi Crébillon. Enfin, ça c'est un peu moi qui le dis. Dis sur vos écrits, Mireille Passion. Alors, quel est le successeur de ce Crébillon? On en est au 7e occupant de ce fauteuil.
C'est l'abbé de Voisenon, qui était Claude-Henri de Fusée, voilà, qui était encore un homme d'église, mais également un aristocrate. Mais en raison de sa qualité de cadet, sa famille l'avait destiné très jeune à l'état ecclésiastique et il s'y était résigné. Mais il rédigeait très bien, notamment pour son oncle, qui était évêque. Et lorsque l'évêque décéda, certaines personnes auraient aimé qu'il succède à son oncle. Et Voisenon s'est précipité à Versailles pour supplier qu'on ne le nommât pas. Car, dit-il, comment veulent-ils que je les conduise lorsque j'ai tant de peine à me conduire moi-même?
Et il a
eu gain de cause. Voilà, on lui a donné une abbaye qui lui procurait des revenus substantiels, mais il n'avait pas charge d'âme.
Alors, il fut l'un des principaux membres de la Société du bout du banc. Alors ça, je me suis bien demandé ce que c'est que la Société du bout du banc.
Voilà, c'est une sorte de club, un atelier littéraire où la meilleure noblesse côtoyait les poètes et les artistes et fréquentait également les salons de Madame Geoffrin, Madame d'Épinay, toutes ces femmes de lettres qui recevaient les écrivains.
Lui succède Raymond de Boisgelin, qui a un nom un tout petit peu plus long, Jean de Dieu Raymond de Boisgelin de Cussé. On est au tout début du 19e siècle. Enfin, voilà. Il est élu en 1776, donc
exactement.
On est encore dans le
voilà.
18e.
Tout à fait, tout à fait. C'est l'époque, c'est la génération qui a vécu la Révolution, la suppression de l'Académie en 1793, la fondation de l'Institut en 1795. Et Boisgelin, qui était un ami des philosophes, qui était archevêque d'Aix, c'était aussi un ami de Turgot, donc un excellent administrateur qui a développé dans ses diocèses les canaux, les routes, l'industrie. Donc, en tant qu'ami des philosophes, il a été élu à l'Académie française. Mais évidemment, celle-ci a été supprimée en 1793. Et donc, il a émigré en Angleterre, surtout lorsque ses paroissiens, enfin les personnes du diocèse d'Aix, le destituèrent et élirent un évêque constitutionnel. Donc, il a émigré en Angleterre. Il est ensuite revenu. Et à ce moment-là, il a accepté de signer le régime concordataire. Il a fait allégeance à Bonaparte, en quelque sorte, et il a été nommé archevêque de Tours en 1802 et membre de l'Institut en 1803, lors d'une réorganisation où l'on a nommé, à ce moment-là, il y a une fournée qui a été nommée et non pas élue. Donc, il a la particularité d'avoir été élu membre de l'Académie française sous l'Ancien Régime et ensuite nommé membre de l'Institut avec
il a
le
vécu,
nouveau régime.
Voilà, les vicissitudes de cette période historique. En tout cas, Marc Fumaroli le considère comme l'un des plus éloquents représentants du clergé de France au siècle des Lumières. Et c'est d'ailleurs lui qui fut chargé du discours du sacre de Louis XVI, deux fois interrompu par des applaudissements, dites-vous, dans votre texte. Ce qui ne se fait pas, on n'applaudit pas dans les discours académiques en plein milieu. Alors, lui succède Duro de Lamalle, alors qu'il, lui, était un latiniste.
Tout
on revient
à fait.
Sérieux.
Oui,
et
alors, il a la particularité d'être né à Saint-Domingue. Son grand-père était gouverneur de l'île de Saint-Domingue sous Louis XIV. Donc, il était devenu orphelin très jeune et on l'a envoyé en France faire ses études. Et comme il disposait d'une importante fortune, il s'est livré à la traduction. Ce qu'il aimait plus que tout, c'était de traduire les auteurs latins. Tacite, Salluste, Sénèque, Tite Live, et de rencontrer des hommes de lettres. Donc, il était tout à fait à sa place à l'Académie, à l'Institut. Voilà. Et il a un fils qui a été membre de l'Académie des inscriptions.
Lui succède, et on en est au 10e titulaire de ce fauteuil, un Louis-Benoît Picard. Alors, celui-ci, c'est un Picard qu'on a un peu oublié, et pourtant, c'est aussi un homme de théâtre. En voilà un qui a abandonné son travail d'avocat au Parlement pour devenir acteur. On le considère un peu comme le fils spirituel de Molière, vous avez dit.
Oui, tout à fait. Mais alors, il faut noter qu'il a renoncé à sa carrière de comédien lorsqu'il a été nommé membre de l'Institut.
Ah bon.
Voilà, il a continué d'écrire des livrets, des textes, mais il n'est plus monté sur les planches.
On l'a un peu oublié, ce Picard, non?
Oui,
je pense.
Il a tout de même écrit
beaucoup de romans, de pièces de théâtre, et malheureusement est un peu oublié. Lui succède un qui, à mon avis, est encore aussi un peu oublié, Antoine-Vincent Arnaud.
Oui, tout à fait, et qui a aussi une vie académique un peu particulière parce qu'il a été élu deux fois à l'Académie française. Il a été exclu sous la Restauration en 1816. Et ensuite, on lui a pardonné, en quelque sorte, et il a été proscrit, et on lui a dit de revenir d'exil en 1829. Donc, il est revenu, il a été réélu, et il est devenu secrétaire perpétuel en 1833.
Donc, on a bien fait de le prendre. Il avait fait partie, je crois, de l'expédition d'Égypte avec Bonaparte.
Exactement, exactement.
Mais il n'est pas allé bien loin, il s'est arrêté à Malte.
Oui, il s'est arrêté à Malte, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, il était très proche de Bonaparte. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il a été exilé sous la Restauration.
Alors lui aussi, c'est donc quelqu'un qui a vécu les vicissitudes des académies, supprimées, rétablies. Enfin, évidemment, c'était toute l'histoire. Mireille Pastoureau, on se retrouve dans un instant. Le 12e titulaire de ce fauteuil, alors lui, il est vraiment plus connu, c'est Eugène Scribe. Il a été élu en 1834, donc on est déjà dans le 19e siècle. Auteur dramatique dont on a gardé le souvenir.
Tout à fait, tout à fait. C'est un grand nom. Il a énormément produit. C'est un des auteurs français les plus prolifiques, un des librettistes les plus féconds. Il a composé près de 500 pièces. Et des comédies, des vaudevilles, des drames et des livrets d'opéra, mais aussi des romans, ce qui est moins connu de nos jours. Et c'était un homme qui avait parfaitement bien réussi et en même temps très généreux et qui avait de l'humour parce que sur la façade du chalet qu'il s'était fait construire près de Meudon, il avait fait graver ces phrases, le théâtre a payé cet asile champêtre, vous qui passez, merci, je vous le dois peut-être.
Au moins, il est reconnaissant. En tout cas, oui. Contrairement à Eugène Labiche, autre vaudevilliste qui a été élu un peu plus tard, en 1880, Scribe, lui, il n'a été élu que sur la fin de sa vie. Il n'a peut-être pas siégé longtemps
voilà.
À l'Académie.
Oui, c'est-à-dire que c'est le contraire. C'est Labiche qui a été élu à la fin de sa vie.
Ah bon, c'est Labiche qui a été élu à la fin de sa vie.
Oui, je trouvais intéressant de faire la comparaison. Et Scribe a été élu à l'âge de 45 ans. Et seulement à la deuxième tentative. Donc il était vraiment dans la force de l'âge et en plein succès. Et il y a eu toute une polémique à ce moment-là. On a accusé l'Académie d'avoir un petit peu cédé devant le succès public du vaudevilliste qui était omniprésent sur les scènes théâtrales. Mais d'autres étaient très contents de l'accueillir parce qu'ils avaient envie de s'amuser un peu. Voilà, mais il a été reçu par le perpétuel Villemain, qui était très austère et qui, dans son discours, lui a fait des reproches à mots couverts. Et comme on l'accusait d'avoir des collaborateurs, évidemment, quelques nègres, certains académiciens avaient proposé de lui attribuer non un fauteuil, mais une banquette pour y asseoir ses collaborateurs.
Je vois que l'Académie ne manque jamais d'humour. Lui succède un autre auteur dramatique et romancier, au moins aussi connu, en tout cas resté dans nos mémoires, c'est Octave Feuillet, élu en 1862.
Oui, tout à fait. Alors là, l'Académie a vraiment remplacé poste pour poste, si je puis dire, ce qui n'est pas toujours le cas. Oui, Octave Feuillet est dans la lignée de Scribe. Mais il a eu une vie beaucoup plus triste. J'ai découvert qu'il avait des tendances dépressives. Et son père également, qui était originaire de Saint-Lô. Donc, il est retourné à Saint-Lô, s'occuper de son père, tout en faisant jouer ses pièces à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était aussi, lui aussi, un romancier. Et il a été le premier écrivain élu à l'Académie française au titre de romancier.
Ah oui. Et en tout cas, il était le romancier chéri de l'aristocratie, dites-vous. C'est-à-dire l'aristocratie du...
Sous le Second Empire.
Sous le Second Empire.
Voilà. L'impératrice Eugénie l'appréciait beaucoup. Elle est venue assister à sa réception à l'Académie. Ses pièces étaient jouées à Compiègne avant de les représentations publiques. L'impératrice Eugénie, une fois, a même joué un rôle. Et tout ça s'est arrêté, naturellement, avec la guerre de 70. Ça a été l'effondrement, voilà.
Et après, le pauvre Octave Feuillet, voilà. Qui n'est mort qu'en 1890, est resté un peu dans la misère.
Exactement, exactement. C'était très difficile. Oui.
Lui succède un grand écrivain aussi, qui a eu beaucoup de succès, grand écrivain, grand voyageur, de son véritable nom, Julien Viau. Vous l'avez tous deviné, c'est...
Pierre Loti, qui est devenu le plus jeune immortel de France, en étant préféré en 1891 à Émile Zola, qui lui était l'éternel candidat. Voilà.
Alors Pierre Loti, bon, il a raconté beaucoup comment il ça s'était
passé. Il avait été dispensé de visite académique parce qu'il est navigué, il était sur son navire. Et il a également raconté comment il a appris son élection alors qu'il se trouvait à Alger. Il a raconté ça d'une manière très, très belle, très bien écrite.
C'était un soir du 21 mai 1891. Vous pouvez peut-être en lire deux, trois petites lignes, Mireille,
s'il vous plaît. Oui, messieurs, j'étais loin de France, naviguant sur un des cuirassés de l'escadre et arrivé de la veille au port d'Alger, le jour où votre compagnie, messieurs, me fit le grand honneur inattendu de me donner ici la place vide qu'Octave Feuillet avait laissée. Ce fut pour moi un inoubliable soir que celui du 21 mai. L'élection avait eu lieu dans le jour et moi, par incrédulité absolue de ce grand triomphe, peut-être aussi par je ne sais quel tranquille fatalisme d'oriental qui me reste au fond de l'âme, j'avais passé mon temps, l'esprit distrait et presque sans pensée, à errer tout en haut du vieil Alger, dans ces quartiers morts et ensevelis de chaux blanches qui entourent une mosquée antique et très sainte. Un des lieux du monde où j'ai toujours rencontré le sentiment le plus intime et aussi le plus calmé du néant des choses terrestres.
Merci
voilà.
De cette lecture.
C'est toute une époque.
Voilà, c'est toute une époque, mais ça nous donne aussi le style merveilleux de Loti.
Tout
enfin,
à fait.
Qu'on aimait quand même beaucoup,
oui, tout
vu
à
qu'il
fait.
A eu beaucoup de lecteurs. Et pourtant, lui, vous avez écrit dans sa biographie, là, sa petite biographie que vous avez faite, « Je ne lis jamais
oui. »,
disait-il.
Ah oui, il a déclaré ça dans son discours. D'abord, il a violemment attaqué le naturalisme et ensuite, il a déclaré « Je ne lis jamais », c'est vrai, par paresse d'esprit, par frayeur inexpliquée de la pensée écrite, par je ne sais quelle lassitude, avant d'avoir commencé, je ne lis pas.
Bon, eh bien, vous voyez qu'on peut quand même être un grand écrivain et ne jamais lire et ne jamais ouvrir un livre, ce qui est quand même une information importante. Lui succède alors un homme inattendu sur un fauteuil de l'Académie des Beaux-Arts. C'est un peintre-graveur.
Tout à fait. Alors là, on change complètement de registre. Il était membre de l'Académie des Beaux-Arts. Albert Besnard était membre de l'Académie des Beaux-Arts depuis 1912. Et en 1924, l'Académie française l'a élu. Et il était le premier peintre élu à l'Académie française depuis le XVIIIe siècle, depuis 1760, Claude-Henri Watelet.
Il avait été Grand Prix de Rome, Albert
voilà,
Besnard, bien sûr, directeur
talent,
de l'École des Beaux-Arts.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Grand peintre, paysagiste, mais pas seulement, parce qu'il était aussi un grand portraitiste, recherché par la grande bourgeoisie, et il avait aussi reçu beaucoup de commandes officielles, car c'était un décorateur, autour des années 1900, très recherché. On lui doit à Paris de nombreux décors, à l'hôtel de ville, à l'école de pharmacie, à la Sorbonne, le plafond de la Comédie française, la coupole du Petit Palais, etc.
Voilà, donc nous allons faire à Canal Academy un petit pèlerinage sur les traces d'Albert Besnard un jour prochain.
Très bien.
De façon à retrouver tout ce qu'il a pu faire. Ça doit certainement être très beau.
Oui, et nous avons une série de correspondances à la bibliothèque qui est très intéressante. J'ai exposé dans nos vitrines ces lettres qui lui étaient adressées, notamment en 1915, donc pendant la guerre de 14, il dirigeait la Villa Médicis à Rome et un de ses amis lui écrit parce que le fils d'Albert Besnard a été tué au front, a été tué à l'ennemi.
En 1915, oui.
Exactement, en 1915, voilà.
Il succède à Albert Besnard Louis Gillet, élu à l'Académie française en 1935. Il a vécu jusqu'en 1943.
Exactement.
Son nom est vraiment resté dans les mémoires.
Exactement. Et on le redécouvre actuellement. Il y a un ouvrage qui vient de paraître qui s'appelle « Stèle pour James Joyce ». Car Louis Gillet est le premier en France à avoir fait connaître des auteurs de langue anglaise, notamment James Joyce, Catherine Mansfield. Et tout ça n'est pas tellement connu. Il tenait la rubrique de littérature étrangère à la Revue des Deux Mondes, qui était dirigée par le secrétaire perpétuel de l'Académie française de l'époque, René Doumic, qui était aussi le beau-père de Louis Gillet. Louis Gillet avait épousé la fille de René Doumic. Et c'était une personne extrêmement cultivée, à la fois historien de l'art et de la littérature, qui connaissait parfaitement l'anglais, l'italien et l'allemand. Et je crois que c'est une personnalité qu'on va redécouvrir.
Certainement.
Oui.
En tout cas, j'ai trouvé dans les phrases que vous lui prêtez une très jolie phrase où il dit « S'il n'avait tenu qu'à moi, J'eusse passé mes jours à ne m'occuper que du beau.
Tout à fait.
Une jolie phrase,
oui,
ça.
Oui, c'est exactement ça. C'était une personne qui n'était pas du tout carriériste et donc qui a été conservateur au titre de l'Académie française, de l'abbaye et du musée de Chaly, qui sont un domaine qui venait d'être légué à l'Institut par Madame Jacques Marandré. Il a été conservateur, je crois, de 1912 à sa mort, en 1943. Il a passé
alors,
sa vie à l'abbaye.
Qu'avez-vous à la bibliothèque de lui, justement?
Alors, nous avons exposé de ses ouvrages classiques, l'histoire des ordres mendiants, la cathédrale de Chartres, Paris. On a exposé aussi cette stèle pour James Joyce qu'il a publiée, qui réunit trois articles qu'il avait écrit, qui montre son évolution vis-à-vis de James Joyce, qui au début ne lui plaît pas beaucoup. Il se demande ce que c'est que cet auteur. Et puis ensuite, peu à peu, il s'est lié avec lui. Il y a eu des correspondances et qui montrent un petit peu son cheminement.
Et c'est Paul Claudel, 17e titulaire de ce fauteuil de l'Académie française, élu en 1946, qui succède à Louis Gillet. Paul Claudel à l'Académie, c'est toute une histoire.
Oui,
ça a commencé tôt et ça s'est fini très tard.
Exactement, au point que même un peu intimidé par l'importance de l'œuvre, je ne parlais que de ses relations avec l'Académie française. Et comme vous dites, c'est vraiment un petit peu compliqué. J'ai découvert d'ailleurs à cette occasion que ses relations étaient ambivalentes parce qu'il disait beaucoup de mal de l'Académie, des académiciens, mais en même temps, depuis toujours, il rêvait d'y être admis. Mais sans faire de concessions.
Alors, ça commence en 1935.
Oui, avant même, dès 21.
Dès 21.
Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son premier poste d'ambassadeur à Tokyo, il s'est demandé si ça ne serait pas une possibilité. Alors, il a fait des visites officieuses, de son propre aveu, quelques visites vagues. Et il a vite été découragé, il était beaucoup trop jeune. Et comme vous dites, effectivement, après, c'est 1935. Là, il a été candidat officiellement.
Tout mais toujours ces sarcasmes contre l'Académie,
oui,
ça n'a pas
fait.
Aidé son élection.
Non, on lit dans son journal, bon, qui n'a été publié que bien après, il a dit « Dans la nécropole académique, je brigue la dignité de cadavre ». Voilà. Et Mauriac, qui était son ami, qui était son champion, lui écrivait « Je vous conjure à partir de maintenant, et même quand vous écrivez à des amis, de ne plus parler de cuistres, de pions, etc. Vous ne vous doutez pas de la solidarité qui existe dans cette compagnie, et puis tout se répète. »
Il avait raison, Mauriac.
Oui, tout à fait.
Alors après,
donc les académiciens sont vengés, ils lui ont préféré Claude Farrère. Donc en 1935,
de
alors
oui.
Claudel était absolument furieux, en plus parce qu'il n'aimait pas l'extrême droite, l'Action française, donc il s'est dit qu'il ne serait plus jamais candidat. Mais il ne repoussait pas l'idée d'être admis un jour.
Alors, passe la guerre, et pendant
oui.
la guerre, il continue justement à espérer d'entrer à l'Académie, tout en disant du mal de l'Académie. Il est sollicité néanmoins.
Voilà. Alors il est sollicité à nouveau, après plusieurs tentatives, en 1944 par Georges Duhamel. Et alors là, c'est un refus, mais Claudel donne une condition. Il dit « tant que Maurras n'a pas été exclu ». Et Maurras fut exclu dans le courant de 1944, puisqu'il a été condamné, et de ce fait, il a été exclu automatiquement de l'Académie. Donc, c'était possible. Et en mars 1945, Mauriac a proposé à Claudel, de la part de l'Académie, de l'élire à l'unanimité sans qu'il eût à faire acte de candidature, comme Clémenceau. Et de plus, le général de Gaulle avait fait savoir qu'il aurait aimé que Claudel acceptât. Donc, ce fut fait. Mais alors, il a demandé le fauteuil de Maurras. Ce que l'Académie n'a pas souhaité faire.
Non, parce
mais
il aurait fait un éloge qui n'aurait pas été un vrai éloge,
voilà,
certainement.
Exactement. Et comme Claudel a évoqué une sorte d'engagement qu'il aurait eu avec Madame Louis Gillet, donc le fauteuil de Louis Gillet a été possible. Il a été élu à ce fauteuil. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il aurait dû être élu à l'unanimité, mais il y a eu tout de même eu un bulletin blanc. Et on pense que c'est celui de Pierre Benoît. Et Claudel avait alors près de 80 ans et il appelait ça l'âge de la puberté académique.
Voilà, on retrouve effectivement la plume vive de Claudel. Le 18e titulaire du fauteuil, c'est Vladimir d'Ormesson, élu en 1956, qui lui était plutôt à la fois diplomate et écrivain.
Oui, ce qui est amusant, donc il a eu une très très belle carrière de diplomate, il a collaboré à des revues, et en même temps, j'ai retrouvé des poèmes de 1912 qui sont extrêmement romantiques. J'ai ouvert à une page « Écrit pour celle qui sera ma fiancée ». Tu seras le repos, tu seras la douceur, tu seras mon amour et bien mieux ma tendresse. Tu seras le refuge où l'on détend son cœur.
C'est une
diverses
hein
facettes d'une voilà même personnalité.
Donc l'ambassadeur de France en Argentine et au Chili notamment, et près le Saint-Siège, poste qu'il occupa jusqu'en 1956, Vladimir d'Ormesson, c'était, je crois, un oncle pour
voilà,
Jean d'Ormesson.
Voilà, je pense, et oui, tout à fait.
Et lui succède un homme politique, mais qui a aussi eu une œuvre littéraire, Maurice Schumann, c'est le 19e et donc l'avant-dernier.
Voilà, Maurice Schumann, que j'ai connu à la bibliothèque de l'Institut, à mes débuts.
Où il venait souvent.
Voilà, oui, tout à fait, une personnalité très forte, déjà par sa conversion. Il était fils d'un juif alsacien et d'une mère d'origine belge qui se déclarait irreligieuse. Mais lui, très jeune, sous l'influence de sa gouvernante, puis d'un oratorien de l'école Gerson, a été attiré par le catholicisme pour finalement recevoir le baptême pendant la guerre en 1942 à Birmingham. Et il a fait graver sur son épée d'académicien un petit motif représentant quatre clous disposés en croix et au centre, une petite couronne d'épines.
Alors Maurice Schumann, c'est toute une carrière, évidemment, auprès du général de Gaulle, mais en même temps, après, bon, des difficultés aussi.
Sur le plan politique,
voilà,
au MRP, dont il a été un des fondateurs. Il a écrit aussi dans ce quotidien d'inspiration catholique qui s'appelait L'Aube, entre 1944 et 1951. Il a rédigé plus de 1000 articles ou éditoriaux. Et ensuite, bon, une carrière politique que l'on connaît, de député d'abord jusqu'en 1973, puis de sénateur jusqu'à sa mort.
Alors comme nous enregistrons cette émission avec Mireille Pastoureau au lendemain du 18 juin 2010, c'est-à-dire qu'on vient de célébrer l'appel du 18 juin, de le commémorer, on peut peut-être quand même dire ce que Maurice Schumann a fait à ce moment-là, parce que c'est tout de même un moment important pour sa vie.
Oui, c'est tout à fait étonnant. Donc, il avait été prisonnier d'abord, il s'était évadé, et il a rejoint le général de Gaulle 10 jours après avoir entendu l'appel du 18 juin, et il est devenu le porte-parole de la France libre. Et durant 4 années, entre juillet 1940 et mai 1944, il s'est exprimé 1200 fois sur les ondes.
Voilà. Oui, et c'était ensuite vraiment la voix de la France libre.
Tout à fait. Et ensuite, il a participé au débarquement, il a pris part à la bataille de France, et de Gaulle disait de lui, il fut l'un des premiers, l'un des meilleurs, l'un des plus efficaces. Maurice Schumann a voulu être enterré dans le village de Normandie où il a débarqué, et il a voulu que sur sa tombe figure un seul titre, celui de compagnon de la Libération.
Et oui, c'était évidemment suffisamment important. Il a aussi été sénateur du Nord en 1974, et c'est l'année où il est entré à l'Académie
voilà,
française.
Voilà, la même année, voilà. Il avait publié.
Donc il a beaucoup siégé à la Haute Assemblée, parce qu'il n'est pas mort tout de suite, je crois.
Voilà, tout à fait. Il a siégé jusqu'à sa mort, il a occupé des fonctions de président de la Commission des Affaires Culturelles de 86 à 95. Et à l'Institut de France, il a été président du Collège des conservateurs du château de Chantilly, où il a été très efficace à l'époque, je me rappelle, pour trouver des fonds pour la restauration du château qui avait de grands besoins. Et il s'est donné beaucoup de mal pour aider à la conservation de ce patrimoine de l'Institut de France.
Certainement. Lui succède M. Pierre Messmer, donc, qui était né en 1916 et nous a quittés en 2007, et qui a été élu à l'Académie française en 1999. Mais il était déjà membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors c'est évidemment Pierre Messmer, à la fois l'homme de guerre, on connaît, et puis l'homme politique.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est un personnage très intimidant. Il a été mon supérieur hiérarchique direct. naturellement, j'ai repris la notice de l'Académie française.
Absolument. Enfin, c'est un homme admirable. Et sur Canal Académie, on trouve beaucoup d'émissions avec lui et sur lui aussi, bien sûr. Mais c'est aussi un homme qui a écrit des livres qui sont tout à fait intéressants à lire, notamment ses nouvelles, La patrouille perdue, enfin celle que j'ai trouvée tout à fait intéressante.
Oui, tout à fait. Et vous savez qu'il avait une belle bibliothèque qu'il a léguée non pas à l'Institut de France, parce qu'il pensait que nous avions déjà beaucoup de livres et pas beaucoup de place, il l'a léguée à la ville de Sarrebourg, dont il avait été maire. Donc il y a un fonds Pierre Messmer à la bibliothèque de Sarrebourg, avec même quelques manuscrits, dont un qui lui avait été donné par Malraux.
Voilà, nous avons fait le tour des 20 titulaires de ce 13e fauteuil de l'Académie française. Donc le 21e, c'est Madame Simone Veil. Donc plusieurs émissions aussi sur Canal Académie, avec Madame Simone Veil, bien sûr. Cette émission sur le 13e fauteuil était donc la 9e de la série, et vous pouvez trouver d'autres émissions avec Monseigneur d'Agens, Jean-Loup Dabadi, Max Gallo, Fernandez, avec Philippe Bossan, avec René Girard, Jean-Claire et Jean-Christophe Ruffin, non pas avec eux, mais à propos d'eux, puisqu'ils occupent l'un des fauteuils de l'Académie française. Et avec Mireille Pastoureau, nous faisons la remontée dans le temps pour évoquer tous les prédécesseurs. Merci Mireille Pastoureau. Le prochain fauteuil, on a une idée du numéro ?
Je ne sais pas le numéro, mais ça sera François Veillargans qui va être reçu au mois d'octobre.
Bon, c'est très bien. Alors, on fera certainement une autre émission.
Tout à
bientôt.
Fait.
Merci.
À bientôt, au revoir.